tu sais, pour le faire.
Je l'avais enlevé.
T'es-tu sérieuse?
Tu m'as dit que t'allais le faire.
Okay. C'est ma faute. C'est moi qui reviens de vacances. Trop tard, je suis toute mêlée.
Bonne soirée.
Prenez soin de vous, des autres,
puis toute l'équipe. Hey, bonne soirée. Merci, Audrey. Merci, Max. Restez à l'écoute de Boulevard 102. Max, on t'écoute demain matin aussi.
Oui. Salut, okay, bye.
Leclerc Communication, la seule entreprise de radiodiffusion 100% locale et familiale, vous remercie.
La radio à Québec, c'est plus qu'un média d'habitude. C'est un membre de la famille. C'est presque une religion.
Et il n'y a personne de mieux placé que les gens de Québec pour offrir le meilleur combo radiophonique aux gens de Québec.
Week-end 91.9. Boulevard 102.1.
Merci de nous aider chaque jour à faire de la radio locale.
Avec et pour vous.
Parce qu'on vit le même maudit trafic que vous autres.
On mange dans les mêmes restos.
On se croise dans les mêmes festivals.
Notre radio, c'est votre quotidien. Notre quotidien, c'est votre radio. Puis ben, on changera pas. Promis.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec en espérant que vous ayez passé un bon lundi. Maître Bellemare est avec nous comme à chaque lundi. On va parler de sujets qui touchent l'actualité. On va parler de sujets qui touchent la SAAC, l'IVAC, la CNSST. L'expertise de M. Bellemare en tant qu'avocat et surtout là-dedans. Très content de vous revoir ce soir, M. Bellemare.
Oui, comment ça va, toi? Grosse fin de semaine des arénas encore?
Ça va très bien, oui. On s'est concentré sur le hockey en fin de semaine. Je me suis sauvé de l'actualité, tu sais, l'actualité trumpiste, de l'actualité internationale, de l'actualité municipale assez lourde la semaine passée, de l'actualité provinciale. Puis là, ben, je me remets là-dedans aujourd'hui. Mais ça a fait du bien en fin de semaine de décrocher, honnêtement, parce que l'actualité est très, très, très lourde.
Ouais, voir les petits bonhommes courir après une rondelle, là, eux autres, ils sont pas trop préoccupés par les tarifs.
Ben, exact. Ils ont comme une facilité à
c'est
nous...
C'est papa qui paye les tarifs.
Exact. Ils ont comme une facilité à nous ramener dans le moment présent.
Ben, c'est ça. Puis ça prend ça dans la vie pour sortir de l'actualité un peu morose là, qu'on a, parce qu'effectivement, on a l'impression qu'on est pas capable de parler d'autre chose que de Trump. Là. Puis on en parle d'une drôle de façon dans la plupart... La plupart des médias actuellement, mais qu'est-ce que tu veux, c'est... On est là-dessus, là, puis trois, quatre chroniques dans le même journal sur Trump, puis trois, quatre chroniqueurs à la TV, puis à la radio, puis mon Dieu Seigneur.
Une chance
qu'on l'a, hein? C'est ouais. Qu'est-ce qu'on fait, ça? On parlerait de quoi si on ne l'avait pas?
Ben, je jasais avec Denis Gravel la semaine dernière, puis c'est ce qu'on se disait, là, tu sais, pour les médias, que ce soit pour les radios, pour la presse écrite, pour la télé, Donald Trump, ça va être du bonbon pendant 4 ans. À savoir si ça va toujours être négatif, on espère. J'espère qu'un jour, ça soit positif, mais ça fait jaser comme pas possible. Donc, les gens sont là, veulent être informés sur leur actualité. Puis nous, ben, on est bien contents d'être là parce que les gens sont présents. Parlons un peu de Denis Coderre. Je pense que c'est vendredi dernier. Je sais que vous avez probablement connu Denis Coderre là, quelque part dans votre carrière. De voir qu'il s'est fait tasser, sa candidature a été rejetée pour la chefferie au Parti libéral du Québec. Est-ce que c'est une surprise pour vous?
Oui, c'est une surprise pour moi. Moi, écoute, je ne sais pas. Là, on est en démocratie. Denis Coderre, bon, alors il y a des pour, il y a des contre. C'est sûr qu'il est perçu par plusieurs comme étant un candidat plutôt fantaisiste qu'un candidat de contenu. Mais en démocratie, on a l'obligation de respecter tous les points de vue. Et c'est une campagne à chefferie qui va aboutir à éventuellement une élection en 2026, c'est bien ça, donc l'année prochaine, 2022, la dernière élection à date fixe, à moins que M. Legault décide d'aller en élection si sa popularité atteint des sommets insoupçonnés. Mais je trouve ça bizarre qu'il décide de l'évacuer. Je pense qu'il aurait amené du piquant certainement dans la campagne, un point de vue. Il y a quand même quelques alliés. Je ne pense pas qu'il soit le candidat favori pour l'instant, mais tu n'es pas obligé d'être candidat favori pour qu'il t'accepte. Puis là, il paraît qu'il y a des problèmes fiscaux avec le gouvernement, avec tout ça, mais là, c'est quoi le problème? Donald Trump aux États-Unis, il a quand même été condamné par un tribunal pour des questions de nature criminelle. C'est un gars qui a fait faillite. Il a beaucoup d'argent, mais il a déjà eu des moments où il en avait moins. Puis là, je sais pas, je trouve que c'est... Éric Duhaime, à un moment donné, avait des problèmes avec ses taxes. Ça ne l'a pas empêché d'être chef de parti puis d'être candidat. Puis éventuellement, techniquement, théoriquement, aurait pu devenir premier ministre du Québec. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec la position du Parti libéral du Québec. Puis surtout qu'on n'a pas vraiment de motif.
En fait,
c'est
ce
le comité qui a rendu cette décision-là a décidé de ne pas parler. Fait que là, non, c'est opaque. Puis en politique, mais les murs de Chine là, qui ne nous permettent pas d'avoir accès aux informations sur une question aussi importante n'ont pas leur place, à mon avis.
Oui. Mais tu sais, moi, je suis plutôt d'accord avec ça. Je trouve que si vous voulez vous présenter à la mairie de Québec, si on se rend compte que vous avez des démêlés avec votre compte de taxes, puis vous n'êtes pas capable de payer votre compte de taxes, puis vous êtes sur le bord de vous faire saisir votre maison, puis vous voulez accéder à la mairie de Québec, je trouve que ça, c'est comme un peu un non-sens. Règle tes problèmes financiers avec la ville et après ça, tu vas pouvoir prétendre être capable de la diriger. Je veux juste retourner sur le tweet de vendredi dernier du Parti libéral du Québec. C'est un tweet qui est arrivé quand même très tôt là, ce matin, assez particulier, 6h55, vendredi matin. Course à la chefferie du Parti libéral du Québec, candidature de Denis Coderre. Le comité électoral a avisé M. Coderre qu'il ne peut considérer sa déclaration de mise en candidature comme étant recevable en vertu des modalités pour la course à la chefferie 2025 du PLQ. M. Coderre peut en appeler de cette décision auprès du comité d'arbitrage à condition de le faire par écrit dans les 5 jours de cette décision. Le comité électoral n'émettra aucun commentaire. Et si on se fie aux journalistes qui suivent le beat de la colline, ce qu'on comprend, c'est vraiment ces déboires avec les impôts qui font en sorte que le gars ne peut pas se présenter. On parle de démêler avec le fisc, là. C'est ce qu'on m'avait dit vendredi dernier. Donc, je trouve qu'il y a une certaine logique, là. Réglez vos problèmes, puis après ça, réglons nos problèmes au Parti libéral du Québec. Tu peux pas arriver là, je prétends être chef, vouloir gérer le Québec. De l'autre côté, t'es pas capable de gérer tes propres finances à toi. Puis je comprends le parallèle avec Donald Trump aux États-Unis, Maître Bellemare, mais j'imagine que les conditions ne sont pas les mêmes. Puis quand vous êtes devenu ministre, j'imagine que vous avez passé justement dans ce fameux tri là, au Parti libéral du Québec où le comité électoral s'est posé des questions sur votre candidature.
Oui, dans mon cas, pour ministre de la Justice, évidemment, on a analysé le dossier déontologique. Est-ce qu'il y a eu des problèmes avec le barreau? Est-ce qu'il a été devant le comité de discipline du barreau? Est-ce qu'il a commis des actes criminels? Évidemment, les infractions au code de la sécurité routière, les tickets puis les excès de vitesse, ça compte pas. Ce sont des infractions de nature pénale et ça n'a pas d'importance. Mais écoute, Yannick, moi, je me dis, là, c'est une campagne à la chefferie. Donc, c'est un brassage d'idées sur le statut du Québec dans le Canada, sur le statut de la langue française, la laïcité, le troisième lien, le tramway à Québec. Le transport, la santé, notre système tout croche. Alors, tu sais, oui, je comprends qu'il y a des démêlés avec le fisc, mais on n'en sait pas plus. Là. On a des reportages vagues. Le fisc, il a demandé quelque chose, puis tout ça. Mais tu sais, il n'y a pas de condamnation de la part de la Cour du Québec en vertu de la loi de l'impôt. Il n'y a pas de condamnation en vertu du code criminel. Moi, je trouve que ça va trop loin. Moi, personnellement, je pense que s'il y avait un verdict d'un tribunal ou même une accusation d'avoir éludé l'impôt, d'avoir fraudé l'impôt fédéral, provincial, mais tu sais que l'impôt dise, nous autres, on a un problème avec Denis Coderre, puis il y a un démêlé. Mais là, moi, je connais plein de monde qui ont des démêlés, qui se font poser des questions par l'impôt, qui sont l'objet de fouilles, sans nécessairement qu'il y ait des résultats. Alors, bon, je trouve qu'à ce stade-ci, en l'absence de toute forme de condamnation, comme quoi l'impôt aura raison, parce que je connais des gens qui se sont battus pendant 12 ans contre l'impôt et qui ont gagné leur cause aussi, parce que l'impôt ne gagne pas tous ses dossiers. Alors, je trouve que c'est prématuré puis que c'est excessif, personnellement. Je pense que Denis Coderre aurait pu apporter des idées intéressantes dans cette course-là, puis le Parti libéral se prive d'un candidat qui est loin d'être acquis, mais qui aurait pu apporter un certain débat, puis qui aurait pu mettre certains autres candidats dans l'embarras. Denis Coderre a été quand même ministre au fédéral, un peu comme
Pablo.
Pablo Rodriguez. Alors, bon, il a déjà vécu ça, et puis dans un autre monde, là, dans le temps de Chrétien Martin. Alors, bon, il y a une expérience au fédéral. Il aurait pu peut-être mettre Pablo dans l'embarras sur certains éléments. Je ne sais pas. Je trouve que c'est, personnellement, là, je trouve que c'est prématuré. Puis, c'est comme, il y a une présomption d'innocence. Il n'y a même pas d'accusation à ce stade-ci, à ce que je sache. Moi, je ne suis pas d'accord avec la position du comité, surtout qu'il n'est pas motivé. S'il pouvait au moins dire, voici, le comité a estimé que les démêlés de nature fiscale, voici pourquoi on a des éléments troublants. C'est des montants importants, ça remet en question la crédibilité du candidat, sa fiabilité, son honnêteté. Ben là, je ne sais pas, mais qu'ils nous le disent, parce que là, on ne sait pas, puis ça ajoute encore au scepticisme, à mon avis. J'espère que ce fameux comité-là, dont on ne connaît pas trop la nature et la composition, va finalement éventuellement nous dire pourquoi.
Je regardais la semaine dernière, c'était la semaine des sondages, là. Ils ont fait un sondage sur les intentions de vote au fédéral. Après ça, ils se sont posé des questions à savoir est-ce que vous voteriez, si Mark Carney serait candidat au Parti libéral du Canada, est-ce que ce serait votre cheval à vous? Si Chrystia Freeland était chef du Parti libéral du Canada, est-ce que ce serait votre cheval à vous? Puis on se rend compte que c'est vraiment une course à deux, hein, entre ces deux-là. Puis Mark Carney semblerait avoir une grande longueur d'avance sur Chrystia Freeland. Elle va devoir faire un mea culpa là, sur ses dernières années avec Justin Trudeau parce qu'elle a appuyé toutes les décisions de Justin Trudeau jusqu'à temps qu'elle décide de se retirer parce qu'elle savait que c'était la fin pour Justin Trudeau. Et là, elle arrive avec des idées qu'elle était en accord quand Justin Trudeau voulait mettre ça en place. Mais là, finalement, la taxe carbone, on va pouvoir laisser ça de côté alors qu'elle était toujours, toujours là-dessus avec Justin Trudeau. Elle aura pas le choix. Ça va être plus facile pour Carney, je pense, que pour Chrystia Freeland, la fameuse course à la chefferie. Hein.
Oui, bien, Madame Freeland, écoute, moi, j'ai une image qui me colle dans la tête, là. Je la vois au mois de fin novembre, début décembre 2024, dernier, à la TV, dans une cuisine, en arrière de Justin Trudeau qui dit qu'il va lever la TPS sur les sapins de Noël, le chocolat, puis les boules de Noël, les chips. Une annonce absolument ridicule. Ça a plombé la crédibilité de Trudeau encore plus. Puis Freeland est là en arrière qui a fait des sourires, puis elle a l'air de la matante qui fait des tartes, là, tu sais. Et ça, là, je vais te dire une affaire, ça colle.
Ouais.
Et Mme Freeland, c'est ça, n'a pas été backbencher ou balayeuse ou épousseteuse dans le cabinet Trudeau. Elle a été ministre des Finances. Et c'est elle qui a autorisé, planifié ces annonces-là avec M. Trudeau. Elle a été au premier rang. Et c'est sûr que son appartenance au régime Trudeau vient plomber beaucoup sa crédibilité. Je suis convaincu qu'elle ne sera pas élue à la chefferie du Parti libéral du Canada. Maintenant, ça pourrait être M. Carney qui va être élu, mais là, il y a un sondage la semaine dernière, léger, léger, dont on a beaucoup parlé, qui a été fait au moment où tout le monde capotait, là, dans le temps où, entre le moment où il n'y avait pas de tarifs, puis le moment où les tarifs ont été reportés d'un mois, où il y avait une espèce de névrose collective au Québec. Léger, léger a sondé les cœurs et les reins et a décidé que les résultats, c'était que Carney avait 38 % d'appui au Québec. Moi, personnellement, je trouve que c'est un feu de paille. M. Carney n'a pas encore donné d'entrevue de fond à quelques médias québécois que ce soit, ni Radio-Canada, ni La Presse, ni TVA. Ben moi, je l'ai entendu parler français un petit peu dans certaines entrevues. Il y a un français plutôt pitoyable, très, très ordinaire. Ça va jouer contre lui. C'est son statut de banquier en chef, la Banque du Canada, Banque d'Angleterre, c'est bien beau, c'est des statuts, c'est des fonctions qu'il a occupées, mais est-ce qu'il a réussi dans ces fonctions-là? Quelles sont les réussites particulières en tant que banquier, que grand banquier de ces deux pays-là?
Oui, et très peu de gens savent que M. Carney était le conseiller de Justin Trudeau pour la COVID, là. Il ne travaillait pas
Oui.
pour le Parti libéral, mais c'était un conseiller. Donc, il s'appelait régulièrement parce que Justin Trudeau avait besoin de conseils économiques. Et c'est Carney qui lui soufflait à l'oreille tout ce que Justin Trudeau devait faire. Puis on sait que ça a été extrêmement dramatique, là, l'économie au Canada. Fait qu'il va devoir répondre de ça. Mais oui, vous avez raison. Tu sais, au Québec, c'est 30 38% pour Carney. Christian Freeland est à 30% des intentions de vote. Mais Stephen Harper avait un Français qui était très, très cassé au début de sa présence comme premier ministre du Canada. Puis il s'est amélioré au fil du temps. Là. Moi, je ne suis pas un libéral dans la vie, là, mais je pense que je laisserai la chance au coureur. Il est capable de s'exprimer en français. C'est déjà ça. Là.
Oui, mais M. Harper n'a jamais eu une très, très haute cote de popularité au Québec non plus. Là. C'est sûr que le français est important. Trudeau parle mieux français que Carney. Je pense que Poilievre parle mieux français que Carney. On verra bien. Dans les débats, c'est sûr que ces éléments-là vont être particulièrement importants. Mais je pense que c'est un feu de paille par rapport aux 38%. Je pense que M. Carney est encore en avance et qu'il va le rester par rapport à Mme Freeland. Mais par rapport aux conservateurs qui ont quand même gagné 2 points dans ce sondage-là, de 24 à 26 ou de 22 à 24 %, là, je pense qu'au Québec, M. Carney peut juste baisser. Là. Ça m'étonnerait qu'il monte plus que ça. On ne le connaît pas, on ne sait pas c'est qui. C'est sur une image, c'est sur une impression dans un contexte où tout le monde capote à cause des tarifs éventuels de M. Trump. Et on verra bien ce qu'il y en est, mais je pense qu'il ne faut pas trop se fier à ce sondage-là parce que c'est sur une impression que les Québécois ont donné leur appui à 38 % et non pas sur une réalité. Alors, quand on va l'entendre parler des pipelines, quand on va l'entendre parler des ressources naturelles, quand on va l'entendre parler du statut du Québec dans le Canada, parce qu'on n'a absolument aucune espèce d'idée de ce qu'ils pensent du Québec dans le Canada, le bilinguisme, l'importance du français qui est en déclin, toutes ces questions-là intéressent hautement les Québécois, puis ça reste à voir qu'est-ce qu'il va proposer. Peut-être qu'il va scorer puis qu'il va réussir à maintenir une bonne popularité. C'est possible, je ne le sais pas. Mais j'ai toujours en tête que dans les gouvernements en fin de mandat, de deuxième ou troisième mandat, je l'ai déjà dit, Kim Campbell en 93, ça a été un effondrement total. John Turner en 84, oh oui. Ça a été un effondrement total. C'est toujours des sauveurs, des new guys, des new girls qui arrivaient comme ça, puis qui disaient, moi, je vais relancer un parti qui est en déclin solide dans l'opinion publique. Les deux frères Johnson, j'en ai déjà parlé. Pierre-Marc, en 85, quand il a succédé à René Lévesque, ça a été une catastrophe quand Robert Bourassa l'a remplacé dans l'élection en décembre 85. Et Daniel Johnson, qui a été, lui, battu par Jacques Parizeau en 94, ça a été la même chose. Alors, les sauveurs, écoute, dans les 50 dernières années, il n'y a pas d'exemple au Canada et au Québec, après 2 mandats électoraux, minoritaire ou majoritaire, ou un sauveur, un arriviste de dernière minute comme ça, même s'il est en dehors du Conseil des ministres de ce gouvernement-là, a réussi à gagner une élection pour faire passer un parti moribond comme celui-là à un parti élu à la Chambre des communes ou à l'Assemblée nationale. Ça ne s'est jamais vu. Ça pourrait arriver, mais il va falloir que M. Carney soit extrêmement habile puis extrêmement charismatique pour réussir ce tour de force-là.
Effectivement. Puis moi, j'aime ça, les sondages, parce qu'on pose des questions au vrai monde. Puis des fois, ça fait notre affaire, les résultats. Des fois, ça ne fait pas notre affaire, mais il y a des trucs qui sont très intéressants. On a posé des questions aux Québécois, à savoir les enjeux. Là. C'est lesquels, selon vous, qui sont les plus déterminants de votre choix de vote en vue de la prochaine élection fédérale au Canada. Puis, on va y aller par le bas parce que je vais vous lancer un signal. Transport collectif, 4%. Relations avec les nations autochtones, 3%. Lutte à l'itinérance, 7%. Développement économique et la création d'emplois, 11%. Promotion de la protection de la langue française, 12%. L'indexation des prestations pour aînés, 18%. Puis là, ça, c'est le bas des colonnes. Quand on va dans le haut, là, lutte à l'inflation, 43%. Ça, c'est ce qui est important pour les gens. Financement du réseau de la santé, à mes yeux, à moi, ça va avec la lutte à l'inflation puis le coût de la vie. Il faut vraiment, vraiment, vraiment axer là-dessus aussi. Les négociations avec Donald Trump pour ce qui est de l'accord économique, la gestion des finances publiques, taxes et impôts, l'accès au logement, 25-23%, puis gestion de l'immigration, 22%. Ce qui est particulier, Maître Bellemare, là, c'est que quand on parle avec les politiciens, eux, ils vont souvent avec les choses qui intéressent peu les gens, puis les journalistes embarquent là-dedans, vont nous parler de la lutte à la criminalité, vont nous parler de la lutte à l'itinérance, le transport collectif. On a l'impression, des fois, il y a des semaines, que c'est ça du lundi jusqu'au vendredi, alors qu'en réalité, M. Bellemare, si on en croit les sondages, ça intéresse très peu les gens, le transport collectif, 4% seulement.
Oui, effectivement, c'est très peu, mais dans notre petite bourgade de Québec, on n'en parle rien que de ça, évidemment. Ça prend des choses pour imprimer nos journaux. Mais effectivement, ça n'intéresse pas grand monde. Et même si c'est des enjeux économiques importants, ce qui compte pour les gens, c'est le portefeuille. Comment ça se fait que les bananes sont si chères? Comment ça se fait que la pinte de lait a augmenté autant? 20, 25, 30 % dans certains secteurs de consommation. Les logements qui ont augmenté dans la région de Montréal, c'est à peu près trois fois ce que c'était. Je sais, j'ai une fille, deux filles qui vivent là. J'en ai une qui est aux études, puis c'est moi qui paye le loyer. Puis je peux te dire que c'est 1400 piastres pour un petit 2,5 dans la petite Italie qui n'est pas très luxueux. Alors, ça fait peur. Alors, ça, c'est l'inflation. Et quand M. Carney était à la Banque du Canada, on avait déjà un processus inflationniste qui est assez important, qui est amorcé. Ces choses-là vont devoir être expliquées éventuellement, mais c'est sûr que ça, c'est important. Les gens vont écouter les chefs de parti leur dire comment ils vont faire pour juguler l'inflation, pour peu que ça soit possible. Écoute, c'est quand même pas facile de dire on va s'attaquer à l'inflation, le pourcentage du taux d'escompte, comment on va fixer ça, etc. Puis en même temps, toutes ces données-là sont extrêmement confidentielles. On ne veut pas rentrer trop dans le processus, on ne veut pas être trop dans le processus technique. Faut pas être en politique, faut être clair, faut arriver avec des messages faciles à comprendre, mais peut-être faire baisser le prix des bananes puis des chips là, mais comment on va procéder, ça c'est un autre game. Mais c'est sûr que M. Carney a quand même une crédibilité au plan économique. M. Poilievre a été député lui pendant les 20 dernières années, mais ça a toujours été son cheval de bataille. Puis dans l'Ouest canadien, c'est M. Poilievre qui a un score très, très élevé par rapport à M. Carney. On va voir probablement cette semaine, il va y avoir un sondage qui va sortir pour nous dire comment les anglophones se comportent, surtout l'Ontario, les Maritimes puis l'Ouest. L'Ouest, je suis pas trop inquiet pour M. Poilievre, mais c'est l'Ontario qui demeure la grande question. Si l'Ontario est encore favorable aux conservateurs à la même hauteur, je pense que l'effet Carney ne se sera pas fait valoir autant en Ontario et ça pourrait être une très bonne nouvelle pour M. Poilievre. Mais effectivement, c'est le portefeuille qui compte et on verra bien ce que ça va donner au cours des prochaines semaines. Mais le français, tu me dis que c'est 12 %. Ouais, ça aussi, ça va être important. En tout cas, on rentre dans une phase qui va être assez importante, mais j'ai l'impression que quand le leader libéral fédéral va être connu, je pense que c'est le 9 mars. J'ai l'impression que M. Carney, qui deviendrait de fait le premier ministre du Canada pour je ne sais pas combien de temps, je pense qu'il va déclencher des élections assez vite pour pouvoir continuer de surfer sur sa popularité. Puis les campagnes électorales au fédéral, je pense que c'est 36 jours. Alors, on va voir quel genre de campaigner c'est aussi, parce que Poilievre a l'habitude, il a été élu non-stop, lui, depuis 20 ans à la Chambre des communes. Il connaît la politique, il connaît la game, il a déjà fait des campagnes électorales. Il a fait une campagne à chefferie qui a été beaucoup plus longue que celle que M. Carney, dans un contexte très différent. Alors, le campaigner Poilievre, je pense, est une réalité. Il est bon en campagne, il est expérimenté. Monsieur Carney, on verra bien, mais c'est toutes des questions qui restent à analyser en fonction du scrutin qui, j'espère, va avoir lieu au plus vite, là, probablement quelque part en avril.
Ben, j'ai l'impression que c'est tout un monde qui s'écroule pour certaines personnes, là, avec le grand orange qui vient d'arriver de l'autre côté, qui bouleverse un peu l'économie. Les questionnements aussi par rapport à, de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de contrer Donald Trump, pour essayer de se diversifier, nous, puis de ne pas être ultra dépendant des Américains constamment. T'sais, encore la semaine dernière, on parlait de relancer le projet GNL Québec. Ce serait pas une mauvaise idée, là, de regarder un peu c'est quoi les ressources qu'on peut exploiter au Québec. T'sais, on a du gaz, on a du pétrole, mais on garde ça dans notre sol, puis on se dit hey, faut faire des barrages, faut faire plus d'éoliennes. Ça va. Il y a un monde qui est en train de s'écrouler, puis dans 5 ans, 10 ans, j'ai pas l'impression que ça va être la même chose. J'ai pas l'impression qu'on va être encore sur 2035, là. Ça va prendre uniquement des véhicules électriques. D'après moi, il y a des choses qui vont tomber, Maître Bellemare, là, avec ces grands bouleversements-là qu'on connaît tant aux États-Unis qu'au Canada, puis au Québec, là.
Oui, puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'on se réveille. Et j'écoute, J'écoute les chroniqueurs là, un peu partout qui nous disent ah, Trump c'est un ci, Trump c'est un ça, mais en même temps, il va falloir peut-être qu'on fasse baisser des irritants interprovinciaux. Monsieur Legault a déjà annoncé vendredi dernier qu'il allait s'attaquer au transport interprovincial pour faciliter la circulation des camions et des transporteurs de toutes sortes qui transportent la marchandise du Québec à d'autres provinces. On a des mesures administratives dans chaque province qui correspondent, selon les études, à 6 ou 20 % même dans certains cas, à des espèces de tarifs qu'on s'impose nous-mêmes d'une province à l'autre. À cause des irritants, ça coûte plus cher, par exemple, pour le Nouveau-Brunswick d'exporter de la vodka au Manitoba que de les envoyer aux États-Unis. Fait qu'on s'impose nous-mêmes, par nos irritants, des coûts additionnels pour le transport, la production et le commerce interprovincial de certains produits de consommation qui sont pourtant très courants. Et là, on vient de se réveiller. On vient de réaliser ça. Et moi, je pense que tout le monde chiale contre Trump, mais en même temps, tout le monde dit oui, notre frontière est trop poreuse. Avant que Trump parle du fentanyl aux États-Unis qui tue des milliers d'Américains chaque année, on disait non, nous autres, le fentanyl, on produit presque pas de ça au Canada, c'est surtout le Mexique. Mais là, de plus en plus d'études démontrent qu'il y a même des cartels mexicains qui produisent du fentanyl en quantité appréciable au Canada. Et on commence à se réveiller, puis on commence à se dire, mais finalement, on est peut-être des grands producteurs de fentanyl. Puis compte tenu que notre frontière est la plus longue dans le monde, hein, la frontière non militarisée entre le Canada et les États-Unis, c'est la plus longue dans le monde, elle est très poreuse, mais là, on décide de mettre du monde aux frontières pour contrôler ça. Alors ça, là, c'est relié à M. Trump. Alors M. Trump nous a obligés à regarder notre frontière poreuse, à regarder la nécessité d'être plus productif, à regarder la nécessité d'avoir un meilleur commerce interprovincial, à regarder la nécessité d'exploiter nos richesses naturelles. Monsieur Legault qui parle de barrage, on parle de GNL au Saguenay, on parle de l'Alberta avec son pétrole qui tout à coup est plus intéressant qu'il l'a jamais été. Alors, ça prenait Trump pour nous réveiller là-dessus, mais en même temps, tout ça, à mon avis, est correct, là, en ce sens que on doit trouver de meilleures manières pour être plus productif, pour produire chez nous des biens qu'on a importé jusqu'à maintenant, puis qu'on sera en mesure de produire, puis créer des emplois chez nous au Canada aussi, au Québec. Et moi, je vois beaucoup de choses positives là-dedans, Yannick. C'est sûr que ça dérange. On sort de notre zone de confort, on va s'enlever le pied sur le pouf, on va arrêter de manger des chips, puis de regarder le Canadien
Ouais.
perdre à tour
C'est
de bras, puis
comme
on va
si on
commencer
s'était
à regarder
créé.
notre économie. Mais
Oui.
ça, moi, je suis pour ça qu'on soit un électrochoc, là, puis qu'on se regarde dans le miroir, puis qu'on commence à se lever plus tôt le matin, puis à être plus productif. Écoute, qu'est-ce qui est négatif là-dedans?
C'est comme si on s'était créé une réalité virtuelle. On s'est constamment toujours greffé à côté des États-Unis en disant, c'est notre grand frère, il va toujours nous défendre, on n'a pas besoin de ci, on n'a pas besoin de ça. Si on regarde à l'intérieur du Canada, ben nous, on n'exploitera pas notre pétrole, on n'exploitera pas notre gaz parce qu'on veut être plus environnemental, mais on tient absolument notre péréquation. Souvenez-vous, quand on a voulu regarder la péréquation pour savoir si on ne pouvait pas changer quelques trucs là-dedans, François Legault s'était ligué en disant, touchez pas à la péréquation, on en a de besoin. Mais cette péréquation-là qu'on reçoit est pas mal due à l'exploitation du pétrole de l'Alberta, que François Legault a déjà appelé le pétrole sale de l'Alberta, alors que lui-même rêvait d'exploiter nos ressources québécoises. On s'est créé une réalité virtuelle. Puis avec l'arrivée du Grand Orange l'autre bord, avec Pierre Poilievre qui mène dans les sondages au Canada, on est en train de se dire, OK, faut se réveiller, là, parce que l'autre, c'est plus le grand frère qu'on pensait, puis il veut être considéré comme notre égal, puis on va devoir payer le prix que ça coûte pour faire affaire avec l'autre côté. C'est comme un wake-up call qu'on a qui fait extrêmement mal.
Oui, puis c'est dans une économie de plus en plus fragile, puis la planète rapetisse, il y a des problèmes un peu partout dans le monde, et la productivité, l'inflation, c'est partout dans le monde, etc. Alors, moi, je pense qu'on ressemble un peu, là, les Canadiens, le Canada, un peu comme un grand adulte de 32 ans qui reste encore chez ses parents, puis à un moment donné, les parents ont dit, ben là, il va falloir que tu te lèves à 6 heures. Il va falloir que tu trouves, comme dit George Thorogood, a haircut and a real job.
Get a real, get a haircut and get a real job.
C'est ça. Alors là, on vient de se faire dire ça. Oui. On n'est pas content. Le grand flambeau de 32 ans qui a l'habitude de se lever à 11 heures le matin, il va falloir qu'il se lève à 6 heures, qu'il ait travaillé, qu'il oui. cherche une job, qu'il se lave tous les matins. Puis ça, il est en maudit contre sa mère qui a dit ça, mais dans 5 ans, il va remercier. Alors, nous autres, là, on est en maudit parce que Trump nous oblige à regarder plein d'affaires, à regarder notre frontière, notre budget militaire, le contrôle des océans, l'inflation, le commerce interprovincial, la meilleure productivité à domicile, l'exploitation de nos richesses naturelles. Ça nous choque parce qu'on ne l'a jamais fait, parce que ça fait 150 ans qu'on est connecté sur le gros câble avec les États-Unis. Mais je pense que c'est une démarche qui va être saine et qui va donner de bons résultats. Puis dans 5 ans d'ici, là, les économistes vont regarder ça puis ils vont dire bon, on a des meilleurs partenaires économiques, on a diversifié, on fait davantage d'affaires avec l'Europe, on travaille chez nous, on est plus productif, on crée des emplois chez nous aussi dans des domaines manufacturiers où on importait des produits qu'on peut maintenant fabriquer chez nous. Et moi, je pense que globalement, dans 5-6 ans, on va être content du résultat parce qu'on va avoir grandi au plan économique, on va être plus fort.
Oui. Il faut se poser la question à savoir pourquoi le Grand Orange aussi. Bon, peut-être il va dire que c'est pour des raisons de sécurité, mais pourquoi le Grand Orange, il veut le Canada comme 51e État? C'est peut-être parce qu'on a des ressources hyper importantes. Puis est-ce qu'on les sécurise, ces ressources-là? Est-ce qu'on les utilise, ces ressources-là? Est-ce que l'eau qu'on a au Québec, elle est plus importante qu'on pensait? Moi, je pense que oui. L'eau pure qu'on a est juste incroyable. On a une réserve d'eau qui est complètement hallucinante. Puis on a des entreprises étrangères qui arrivent ici, qui s'établissent au Québec, puis qui nous donnent des redevances qui n'ont absolument pas de maudit bon sens pour l'exploitation de notre eau. Puis ils revendent ça partout à travers le monde, incluant le Québec, avec une petite fortune. Une bouteille d'eau, des fois, c'est 2-3 piastres, Maître Bellemare, alors que les redevances qu'ils redonnent au Québec, c'est absolument ridicule. Si le Grand Orange, l'autre bord, juge qu'on a des ressources, il faudrait peut-être s'en rendre compte qu'on en a des ressources puis cesser de se faire exploiter par les entreprises étrangères qui viennent les prendre, ces ressources-là, puis nous autres, nous en occuper.
C'est sûr qu'on a un travail à faire au niveau de nos ressources naturelles. Effectivement, on en a beaucoup. On a du gaz, on a du pétrole, on a de l'hydroélectricité, on a de l'énergie en masse.
Les minerais, les minéraux précieux?
Bien sûr, par rapport au fait qu'on est capable de faire davantage. Puis c'est sûr que Trump, l'environnement, il s'en fout, là, c'est clair. Puis il a autorisé des forages dans le Pacifique, dans le Golfe du Mexique, que les démocrates avaient interdit jusque-là. Puis ça va, comme il disait dans sa campagne, « drill, baby, drill ». C'est un peu un de ses slogans électoraux. Puis c'est sûr que moi, je trouve, pour connaître assez bien la Floride, je trouve que l'environnement, il s'en sacre, les Américains, là, surtout dans les États rouges. Écoute, tu vas à l'épicerie puis ils te donnent 8 sacs de plastique. Ils polluent, ils n'ont pas de considération pour l'environnement. C'est clair qu'au Québec, on a un éveil environnemental qui est plus poussé qu'ailleurs. Plus poussé encore que partout dans le reste du Canada, c'est certain. Puis c'est vrai qu'on a toujours dit que le pétrole albertain, c'est un pétrole sale. Charest le disait, Bouchard le disait, Couillard le disait, puis Legault le disait. Maintenant, moi, je pense qu'on va devoir travailler un petit peu plus de ce côté-là, puis un petit peu moins scrupuleux sur l'environnement. Parce que là, n'importe quel projet d'exploitation minière ou d'exploitation énergétique va donner 3 ou 4 pancartes de M. Guilbeault à Ottawa, là, ministre de l'Environnement. Puis il y a 3 ou 4 environnementalistes qui vont passer aux nouvelles pour dire non, 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 ça va polluer. Moi, je pense qu'il n'y a pas un seul projet d'exploitation énergétique qui n'a pas un impact environnemental. Que ce soit un barrage, que ce soit du forage, que ce soit un oléoduc, c'est sûr que ça va amener une perturbation. C'est certain, dès que tu mets une pelle dans la terre, tu commences à bouger ça, ça a un impact environnemental. Mais faut essayer de trouver un équilibre, puis on ne l'a plus l'équilibre. On est complètement paralysé par tous les concepts environnementaux, puis il ne se passe plus rien au Québec, on ne fait plus rien.
Bien, les groupes environnementaux en mènent large au Québec, puis je vais vous donner un exemple comme ça. Il y a de ça un an ou 2 ans, je faisais une lecture parce que j'avais une entrevue à faire pour Marceau Soir avec un ingénieur nucléaire. Puis ce que je voulais faire avec lui, c'est de démontrer qu'effectivement, la nouvelle énergie nucléaire qu'on est en train de créer sur la planète, pas l'ancien, comme, je sais pas moi, Gentilly 2, là, mais le nouveau nucléaire, c'est la façon la plus environnementale de produire de l'électricité. Puis lui, il était content que j'amène cet argument-là en onde parce que j'avais fait des lectures. Puis effectivement, il était du même avis que moi. Mais aujourd'hui, au Québec, on dit « Hey, on a de nouvelles centrales nucléaires qu'on pourrait vous proposer qui régleraient pas mal le manque d'énergie qu'on peut avoir. Puis on les intégrerait à telle place. » Ça passerait pas dans la population. On a tellement été brainwashed comme quoi le nucléaire, c'est mal, le pétrole, c'est mal, que même avec le truc le plus environnemental pour produire de l'électricité, on dirait non à ça parce qu'on était brainwashed par des journalistes qui étaient un peu plus des militants puis des activistes. L'énergie nucléaire, Maître Bellemare, à ce jour, partout dans le monde, là, ceux qui ont les nouvelles façons de faire, c'est l'affaire la plus environnementale qu'il y a. Ça dépasse les barrages, ça dépasse les panneaux solaires, puis on ne l'utilisera jamais parce qu'on a été brainwashed. C'est triste, ça, Maître Bellemare, qu'on ne soit pas capable d'avancer.
Oui, on a des blocages, très certainement comme collectivité au Québec. On a des blocages importants. On a le blocage Tchernobyl puis Hiroshima, puis on est comme bloqué là, puis on pense que le nucléaire, c'est terminé. Mais la science a quand même évolué.
Ben oui.
Et le nucléaire est présent beaucoup, même au Canada.
On en a 19 réacteurs nucléaires au Canada. On n'entend jamais parler des réacteurs nucléaires au Canada. On en a 19, puis quand je dis ça à un Québécois, il est persuadé que je lui mens. Mais pourtant, sur le site du gouvernement du Canada, c'est bel et bien inscrit 19 réacteurs nucléaires.
C'est ça. Alors, on est mûr pour des débats sains, des débats aussi sur GNL au Saguenay, le gaz naturel, le fractionnement... Les barrages, on est mûr pour un débat, il faut avancer de ce côté-là parce qu'on est complètement paralysé par une phobie environnementale. Je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de l'environnement, mais je pense que l'environnement prend trop de place et les préjugés environnementaux en prennent trop aussi. Ça bloque le développement économique du Québec. Et pourtant, on n'est pas gêné de prendre un chèque de 14 milliards par année qui vient de l'Alberta à cause du pétrole de là-bas. Fait qu'on est parfaitement hypocrite dans nos logiques. On prend le chèque de 14 milliards.
Exact.
Souviens-toi, en 2018, une des priorités de M. Legault, candidat aux élections comme chef du parti Coalition Avenir Québec en remplacement de M. Couillard. Deux priorités économiques, donner des bonnes jobs payantes aux Québécois, des jobs à 40-50 de l'heure, un. Puis deux, se débarrasser de la péréquation. C'est ça qu'il disait. Mm-hmm. Il dit, c'est une honte la péréquation. On dépend des autres. On doit développer notre économie. Puis ça, c'est l'homme d'affaires, Air Transat, qui parle, l'homme d'affaires crédible, qui a fait des business, qui a fait des millions avec ça, qui a réussi en affaires, François Legault, qui dit on va se débarrasser de la péréquation, alors qu'aujourd'hui, on récolte plus que jamais 14 milliards, et ça ne nous empêche pas, malgré ce 14 milliards-là de revenus, les deux pieds sur le pouf qui viennent du pétrole de l'Alberta, ça ne nous empêche pas de faire un déficit d'opération de 11 milliards pour la dernière année financière. Fait que si on n'avait pas la péréquation, Yannick, là, on serait 25 milliards de déficit pour la seule année qui a cours actuellement. Pas drôle, là.
Ah, effectivement. Le prochain...
Il faut arrêter d'avoir peur de mettre une pelle dans le sol, puis il faut être rationnel, puis il faut axer ça sur le développement économique. Puis encore là, si l'électrochoc de Donald Trump peut nous amener à nous réveiller au niveau de nos ressources naturelles qui dorment dans le sol puis qu'on n'exploite pas, alors qu'on importe allègrement plein de choses, au plan énergétique aussi... On est mûr pour un grand débat. Je pense que nos gouvernements vont devoir passer à l'attaque de ce côté-là.
Ouais. Prochain sujet, je voulais vous entendre là-dessus. Magali Picard, qui est la présidente de la FTQ Construction, qui s'est fait brasser là, dans les médias la semaine dernière. D'ailleurs, les journaux de Québécois ont fait une maudite belle job. Là. Quand ils se plantent, on aime bien ça le dire, mais faut, quand ils font des bons coups, il faut le dire aussi, pour être honnête. Des gens de la FTQ, des dirigeants de la FTQ qui n'avaient aucune gêne à dépenser l'argent des syndiqués dans des affaires qui n'avaient pas de bon sens, des scotchs à 50$ et tout ça. Donc, ils ont mis la FTQ dans l'embarras, ce qui fait en sorte que Paul Larocque, Patrick Lagacé ont réussi à parler avec Magali Picard. Puis, dans une entrevue avec Paul Larocque, bon, ce qu'elle a mentionné, c'est qu'elle n'était pas du tout d'accord, bien entendu, avec les dépenses exagérées qu'elle avait vues passer dans les journaux de Québécois. Mais ce qui nous fait un peu sourciller, Maître Bellemare, c'est qu'elle a dit que les gens qui transmettent de l'information aux journalistes, tel que ça a été transmis la semaine dernière puis l'autre semaine d'avant, comme quoi il y a des gens qui dépensaient l'argent des syndiqués d'une mauvaise façon, bien ça, c'était criminel n'importe où dans le monde, dans n'importe quelle organisation. Elle en avait plus envers la personne qui a décidé de parler aux médias qu'envers la personne qui a justement fait des dépenses qui étaient un peu frivoles là, avec l'argent des syndiqués.
Oui, bien, Magali Picard, là, c'est une honte pour le mouvement syndical. Très clairement dans ma tête, et ce, depuis longtemps. Elle accumule les gaffes, elle n'arrête pas d'en faire. Aux dernières négociations dans le secteur public, la présidente, donc Magali Picard, de la plus grande centrale syndicale au Québec, la FTQ, était à Dubaï. Elle s'est permis un voyage à Dubaï. Tu te souviens de ça?
Oui.
Ça avait été très, très mal perçu, autant chez les syndiqués que dans la population générale. En pleine période de crise, de négociations intenses, elle s'en va pour un colloque à Dubaï qui n'a rien à voir avec les négociations en question. Donc, elle n'est pas là. Elle nous dit, oui, bien là, je travaille à distance, puis je suis capable de parler au téléphone, mais c'est complètement ridicule, là, tu sais. Puis elle occupe quand même des fonctions publiques. Puis cette fille-là n'a pas l'air à comprendre que la perception qu'elle donne dans la population est négative. Et là, je me souviens, à un moment donné, les attaques en règle contre Pierre Poilievre à TVA, je pense que c'était l'émission de Paul Larocque, où elle avait dit que c'était un clown, que c'était un ci, que c'était un ça. Alors, de quoi elle se mêle, alors qu'elle est présidente d'une centrale syndicale? Elle a le droit de parler de choses publiques, d'économie, de syndicalisation, d'inflation, je comprends ça, mais s'attaquer de façon violente et vulgaire à un chef de parti, quel qu'il soit, c'est indigne de ses fonctions. Et les propos qu'elle utilise sont indignes des fonctions importantes qu'elle occupe au sein de la FTQ en représentant, quoi, 500 000 travailleurs au Québec. L'autre affaire qui arrive dernièrement, comme tu le sais, tu viens d'en parler, puis c'est juste, il se passe des choses à la FTQ, il y a des défenses frivoles, il y a des gens qui prennent un coup sur le dos des syndiqués, il y a des dépenses qui n'ont pas d'allure. Tout le monde au Québec est d'accord avec ça, puis tout le monde est indigné de ça. Que ce soit la FTQ, dans un ministère, dans un parti politique, dans une entreprise, c'est inacceptable. Toi, tu peux dépenser ton argent comme tu veux, mais dépenser l'argent des autres dans une centrale syndicale, c'est inacceptable. Et c'est normal que ça soit venu à l'attention du public et qu'il y ait quelqu'un à la FTQ, à l'interne, qui a eu la bonne idée de rendre ça public. Alors, plutôt que d'essayer de dire « oui, on va régler ça », oui, c'est inacceptable et on va travailler sur la solution. Elle s'attaque à quelqu'un qui a été un whistleblower, un dénonciateur public, qui a sorti l'information dans les médias parce qu'il trouve ça inacceptable, ce qui est commun pour l'ensemble des Québécois de trouver ça inacceptable. Elle s'attaque à cette personne-là, il ne fera pas chaud, il va y avoir des problèmes pour cette personne-là, on va la trouver, c'est criminel. Alors, oui, c'est vrai que ce n'est pas criminel, d'abord, mais c'est même moralement une obligation dans n'importe quelle organisation de rendre ça public. Et lors de la dernière consultation, commission parlementaire sur les dénonciateurs publics, les whistleblowers au Québec, la FTQ avait appuyé ce projet-là en disant « ça prend des dénonciateurs à l'interne des organisations pour sortir les malfaçons, les exagérations, les dépenses excessives, les crimes, le harcèlement, tous les comportements blâmables. Oui. La FTQ était d'accord avec ça.
Mais la FTQ avait dit...
Elle est d'accord pour le reste, mais oui. Pas pour elle.
La FTQ avait dit qu'il faut protéger les lanceurs d'alerte qui s'adressent aux médias dans une perspective d'intérêt public. Et là, la Picard, devant Paul Larocque, s'en va dire que c'est criminel être des lanceurs d'alerte. Elle l'a dit aussi au 98.5 Montréal avec Patrick Lagacé. Même chose, c'est criminel ce que la personne a fait. Alors qu'il y a de ça quelques temps, ben, la FTQ avait dit tout à fait le contraire. Puis comme vous l'avez dit, vous voulez mettre en place une protection pour les lanceurs d'alerte. C'est une honte pour le Québec et je suis entièrement d'accord avec vous. Est-ce que cette personne...
a nuit au mouvement syndical considérablement. Puis je t'avouerai que moi, je l'ai vu agir sur le plateau pendant les entrevues télévisées. Elle n'a pas l'air préparée. Le body language n'est pas bon pantoute. On a l'impression qu'elle sort de nulle part. On a l'impression qu'elle vient de se lever, qu'elle n'a pas préparé son entrevue. Elle dit n'importe quoi. Elle a l'air, énervée, inquiétée. Elle n'a pas l'air sûre d'elle. Mal préparée, intempestive. Et je trouve que ça manque de sérénité. Elle a un comportement qui manque de sérénité, qui manque de calme, qui manque de pause. Et quand tu représentes la plus grande centrale syndicale au Québec, il me semble que tu dois avoir des sujets comme les sujets politiques, s'attaquer à des chefs politiques. Peut-être en campagne électorale, ils ont le droit de prendre position, même là-dessus, j'ai des réserves, parce que c'est quand même des fonds syndicaux qui sont utilisés, puis ils ne sont pas là pour prendre position ni politiquement, ni pour un parti ou pour un autre. Pour des sujets, des thèmes, oui, mais s'attaquer à des leaders politiques, je trouve que c'est indécent. Et je pense que Mme Picard est complètement à côté de la coche. Puis, à mon avis, les membres de la FTQ devraient penser à trouver quelqu'un de plus digne pour les représenter, surtout sur des sujets publics qui les intéressent au plus haut point, qui relèvent de la gestion interne de la FTQ.
On est en compagnie de Maître Marc Bellemare de bellemareavocat.ca. On va faire une courte pause, les amis. On revient tout de suite.
Marceau, le soir.
Boulevard.
Le Pit Stop.
101.
La semaine. Dans Marceau le midi, Marceau et Gravel refont le monde pendant 30 minutes dans le Pit Stop.
Yes, mon homme!
C'est simple, rapide et efficace. Et surtout, tellement divertissant. Ils n'ont pas la prétention de régler des dossiers, mais ils ont souvent des bonnes idées.
Hey, ça, c'est un beau midi, mon gars.
Le Pit Stop. Tous les jours de la semaine, midi.
102.
Le 19 février, le patron Charles Beau vous invite à la 18e édition de sa soirée philanthropique annuelle. Faites la différence! Au programme, apéro et souper gastronomique dans une ambiance raffinée, chaleureuse, accompagnée d'une sélection de vins d'importation privée. Votre présence est essentielle au maintien des programmes de sport, de loisirs et d'entraide pour la communauté. Inscrivez le 19 février à votre calendrier et invitez amis, famille et collègues à se joindre à la cause. Pour plus de détails et pour réserver vos billets ou encore pour faire un don, visitez lepatroncharlesbeau.net.
Spécialiste et expert en implants dentaires depuis 25 ans, faites confiance au Dr Steve Bernier à Lévis, Québec et à Saint-Georges. 418-835-5858.
Marlin Chevrolet Buick GMC vous offre 90 jours sans paiement au financement sur nos véhicules électriques Equinox EV, Blazer EV et Hummer EV. Pas prêt pour l'électrique? Aucun souci! Profitez d'un taux de financement aussi bas que 0% sur nos modèles les plus populaires comme les Silverado et Sierra 1500. Pour une offre électrisante et des taux imbattables, venez nous rencontrer. Une seule adresse, 2145 rue Franck-Carrel, Marlin Chevrolet Buick GMC.
Duproprio accompagne...
Hugo!
Ça va, Hugo?
Mais hein, j'ai vendu ma maison moi-même.
Toi-même?
Ben, avec l'aide de l'équipe Duproprio, ma coach Julie, mon notaire Cédric, mon évaluatrice Josée...
Donc, quand tu dis « j'ai vendu », c'est pas juste toi.
Oh non! Mais c'est juste moi qui économise la commission, par exemple.
Duproprio. Vendez bien accompagné. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
Chez Cora, on sait qu'une famille qui s'entend sur tout...
Ben non.
Ben oui.
Ben non.
Ben oui.
Ben non.
Ça n'existe pas. Mais il y a du nouveau chez Cora. Le plat à partager. Là, tout le monde va s'entendre. Parce que tu peux choisir parmi nos omelettes, gaufres, pancakes et viandes d'accompagnement pour créer un plat qu'on te sert dans une seule et grande assiette à partager dans le plaisir et la bonne entente.
Ben oui.
Jusqu'au 6 avril en restaurant, à la livraison et pour emporter. Moi, je déjeune chez Cora Déjeuner et Dîner avec le nouveau plat à partager.
Du 20 au 23 février, venez rencontrer les experts de chez Moreau PRS au Salon Expo Habitat de Québec. Vous pourrez en apprendre plus sur la gamme Sunspace Sunrooms, des produits 100% canadiens. Pour tout ce qui est patio, rampe et solarium, c'est Moreau PRS.
Retraite Québec présente le brin de sagesse de Leila.
Avec les enfants, l'hypothèque et toutes nos dépenses, je vivais pas mal au jour le jour et j'avais arrêté de mettre de l'argent de côté. Mais là, j'ai décidé de recommencer. J'ai trouvé un outil pas mal pratique, Simulaire. Ça m'a aidé à calculer combien je devais épargner pour ma retraite. Avoir un objectif, ça aide vraiment.
Pour récolter assez de blé à la retraite, il faut planifier et poser les bons gestes. Visitez notre site web pour essayer Simulaire. Un message de Retraite Québec.
Viens découvrir le Jukebox Craft au Carnaval de Québec. Sur place, la Grande Roue Philadelphia, des spectacles, une comédie musicale, le Music Quiz Craft et les instruments de glace de la disco symphonique Craft Dinner. Du 7 au 16 février, en way dehors au Carnaval de Québec, en collaboration avec Loto-Québec.
Pour baisser votre facture d'électricité, vous gardez ça vraiment froid chez vous? Et s'il y avait une autre solution? Pour garder la chaleur à l'intérieur et la froideur à l'extérieur, faites appel à Groupe Fix. Dites au revoir aux pertes de chaleur grâce à leur service de calfeutrage qui rétablira l'étanchéité de votre maison. Groupe Fix, fièrement recommandé par CAA Habitation et nommé choix du consommateur depuis 5 ans. Retrouvez le confort grâce à Groupe Fix. Pour plus d'informations, composez le 1-844-BRIC.
Psst! Veux-tu connaître le scoop? À ce qui paraît, Scoop Vision offre tous les avantages d'une vraie lunetterie.
Mais avec les prix d'Internet, ajustements, prises de mesure et les garanties.
Rencontrez les opticiens d'ordonnance dans les succursales Scoop Vision. Détails sur scoopvision.ca.
Vivre à quelques pas des plaines d'Abraham, du musée et de la rue Cartier, avec Le Wattier, tout est possible. Du studio à la maison de ville, on a ce qu'il vous faut. De plus, profitez d'un espace lounge, d'une terrasse et d'un stationnement intérieur. Visitez lewattier.com.
Il y a l'économie de marché, l'économie planifiée, l'économie circulaire, les économies d'échelle, les économies de bout de chandelle. Mais chez Énergir, nous croyons d'abord à l'économie d'énergie. C'est pourquoi, depuis près de 25 ans, on aide nos clients à réduire leur consommation en les accompagnant dans des projets d'efficacité énergétique. Pourquoi est-ce qu'on tient à vendre moins de ce qu'on offre? Parce que l'économie d'énergie, ça profite à tout le monde. Énergir. Pensez l'énergie autrement.
Cette Saint-Valentin, offrez à votre moitié un coffret spécial signé Équilibre Traiteur. Mise en bouche délicate et plats raffinés comme la burrata avec sa confiture ou la joue de bœuf braisée, disponible du 13 au 15 février en livraison ou cueillette. Commandez dès maintenant sur équilibre-traiteur.ca.
C'est le moment de vous démarquer. Louez le Volkswagen Taos 2025 à partir de seulement 3,49% sur 48 mois. Profitez d'un VUS compact qui allie style, confort et technologie avancée, parfait pour toutes vos aventures. Laval Volkswagen, sans flafla depuis 1968.
102. La radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Comme à chaque lundi, on a le plaisir d'être avec Maître Marc Bellemare de chez bellemareavocat.ca. Prochain dossier, Maître Bellemare, c'est un dossier qui est particulier. Le Tribunal administratif du travail du Québec qui a ordonné à un concessionnaire automobile de Thetford Mines de réembaucher un employé qui avait été congédié après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle. Moi, cette décision-là, Maître Bellemare, vous allez nous l'expliquer, là. Je la comprends pas, mais pas pantoute.
C'est que la Charte des droits du Québec, qui protège les criminels, les malfaisants, les malpris, surtout, hein, parce que la Charte des droits, toi puis moi, ça nous sert pas bien, bien, là, mais ça sert à ce gars-là, parce que la Charte prévoit que tu peux pas déplacer, congédier ou refuser d'embaucher quelqu'un qui a commis un acte criminel, même s'il a été condamné, si l'acte criminel est étranger aux fonctions qu'il occupe. Bon, ça veut dire, si tu as été victime, si tu as été coupable de fraude, la banque a le droit de te mettre dehors parce que la fraude financière, c'est au cœur même de ton travail pour une banque, c'est au cœur même de l'activité bancaire. Si tu as été condamné pour un vol dans une épicerie, ben là, tu ne pourras pas travailler dans un commerce parce que tu es voleur. Ça peut arriver. Mais dans ce cas-ci, c'est un concessionnaire automobile, donc le gars... Il a fait la preuve qu'il n'était pas pire. Le boss a dit oui, il fait une bonne job, on est content de ce qu'il fait, il est productif, il fait son travail, il arrive à l'heure, on n'a rien à dire au niveau disciplinaire. Mais on a un problème avec ça parce que c'est un gars qui a été condamné pour, je pense, deux infractions criminelles.
Deux infractions criminelles.
Vie de garçon.
À Québec. C'est un événement qui est survenu à Québec. Les gars étaient complètement sous dans le secteur de la rue Saint-Joseph. Et à un moment donné, bon, ils ont approché une gang de filles. Ils voulaient prendre des photos avec les filles. Et à ce moment-là, ils ont décidé de taponner les filles pendant qu'ils prenaient les photos. Les filles n'ont pas aimé ça. Puis il y a eu une bagarre. Puis il y a eu des blessés, d'ailleurs, dans cette altercation-là. Puis ça a été lourdement médiatisé, cette histoire-là. Mais Maître Bellemare, dans mon contrat radio, là, si je nuis à l'image de mon entreprise, à l'extérieur de mon emploi, vous, savez-vous quoi? Je me fais sacrer dehors parce que c'est inclus dans mon contrat. Je pensais que c'était comme ça à grandeur du Québec. Là. Si vous nuisez à votre employeur, non. À l'image de votre employeur, c'est terminé. Merci, bonsoir.
Ouais, mais pas nécessairement. Même dans un cas de criminel, la charte aurait préséance même sur un contrat comme celui-là qui pourrait peut-être éventuellement être annulé si jamais il était appliqué de mauvaise façon. Mais tu ne peux pas congédier quelqu'un, même pour un crime, si c'est étranger aux fonctions. La juge Laprade, dans cette affaire-là du Tribunal administratif du travail, a décidé qu'il n'y avait pas de lien entre les condamnations criminelles ou les actes criminels reprochés et l'emploi au niveau d'une concession automobile à Thetford. Et l'employeur disait, bien, ça jette le discrédit sur l'entreprise, ça nous nuit au niveau de notre réputation. Là-dessus, peut-être que la preuve est un peu mince. La juge ne dit pas que ce n'est pas pertinent. La juge ne dit pas qu'elle n'aurait pas pu tenir compte de ça si ça avait été prouvé. Elle dit simplement à l'employeur que c'est juste une prétention, un préjugé, mais que ce n'est pas prouvé. Alors peut-être qu'il aurait fallu amener des témoins de l'environnement à Thetford ou des gens de publicité, des gens de marketing pour venir dire, bien voici, ce type de personne-là nuit à l'image puis va empêcher l'employeur de faire des deals. Il y a des consommateurs qui ne feront pas affaire avec cet employeur-là. Ça va nuire à son chiffre d'affaires, ça va le discréditer par rapport aux compétiteurs. Des choses comme ça. La juge, elle ne dit pas que ce n'est pas pertinent. Elle dit simplement qu'il n'y a pas eu de preuve qui a été administrée de ce côté-là. Et voilà. Alors, monsieur va devoir être réintégré. Est-ce que ce jugement-là va faire l'objet d'une contestation? Possiblement. Parce que les décisions du tribunal administratif du travail peuvent être revisées par la Cour supérieure. On verra bien ce qu'il y en est, mais je pense que c'est une application de la charte qui se défend. Moi, personnellement, si ça m'arrivait au bureau ici, je peux te dire une affaire, il n'y aurait ni un ni deux avant un congédiement parce qu'il n'y a aucun comportement criminel qui peut être accepté dans un bureau d'avocat, compte tenu qu'on est censé représenter la loi et qu'on est censé être les défenseurs des officiers de justice. Ouais. Mais ça dépend de l'industrie dans laquelle tu te trouves. Effectivement, l'agression sexuelle commise dans une ville autre et n'est pas en relation avec le commerce automobile, c'est très clair, mais en même temps, c'est encore là le jeu des chartes là, qui joue malheureusement bien trop souvent le jeu des criminels et des gens qui ont eu des comportements erratiques. Alors, nos chartes servent essentiellement à ça, malheureusement.
Ouais. Je pense aux femmes de l'entreprise, Maître Bellemare.
Bien sûr, femmes de l'entreprise,
qui doivent travailler avec cet individu-là. Là.
On banalise le crime, mais ce n'est pas la seule fois. On a au Canada une justice criminelle qui est plutôt à gauche, puis on a des chartes qui sont plutôt à gauche, puis tout le monde est à gauche au Canada puis au Québec. Il n'y a pas grand monde pour défendre ça, mais ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer à l'idée de congédier des gens qui ont commis des actes criminels, mais organisez-vous pour être capable de faire la preuve que ça a un impact réel et non pas présumé sur votre organisation.
En vous souhaitant de passer une belle soirée, Maître Bellemare, de même qu'aux auditeurs, on se reparle lundi prochain. Et demain, ben, j'aurai le plaisir de retrouver Audrey Péchaud, qui est de retour de vacances avec son beau bronzage dans l'open mic. Salut tout le monde. Merci, Maître Bellemare.
Bye, bonne semaine.
Au revoir. Pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNSST, c'est bellemareavocat.ca. Ciao!
Marceau, le soir.
Du 7 au 16 février, en way dehors avec le Carnaval de Québec en collaboration avec l'Auto-Québec. Graffiti sur le palais de bonhomme, instruments de glace, Lumiglas Banque Scotia, un spectacle de son et lumière, quiz, disco silencieuse, sculpture et plus encore. Et nouveauté de cette année, les appels surprises coureurs des bois. Lorsque ça sonne, entre et découvre une surprise. Déplace-toi aussi gratuitement avec les navettes Vidéotron. Procure-toi ton effigie pour seulement 39 $ plus taxes dans les couche-temps participants ou sur carnaval.qc.ca.
À Expo Habitat Québec, partez à la rencontre de l'inspiration et de l'expertise. Ça s'en vient du 20 au 23 février à Expo Cité.
L'atelier, c'est un incontournable sur Grande Allée pour manger, boire et célébrer. Envie d'une soirée réussie, ambiance festive décontractée, parfait pour un souper entre amis, un événement de groupe ou un tête-à-tête. Savourez nos tartares, burgers et plateaux à partager, accompagnés de cocktails signature créés par notre chef mixologue. À chaque soir, laissez-vous porter par la musique live. Manger, boire, célébrer, une seule destination, l'atelier sur Grande Allée. Réservé dès maintenant sur bistrolatelier.com.
Salut Nissan, hey, c'est votre 60e?
Oui, Karine, puis en 60 ans au pays, on en a fait du chemin. On est passé d'une simple ceinture de sécurité au bouclier de sécurité 360 du Rogue.
De la radio qui griche au Apple CarPlay.
Puis même pas de power steering à la traction intégrale intelligente.
C'était très bien dans le temps, mais c'est beau le progrès.
Louez le Nissan Rogue S 2025 à partir de 0,99% et obtenez 1 000 $ en bonus plus la chance de gagner la valeur de votre location. L'offre prend fin le 28 février. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Aucun achat ou location requis. Détails sur Nissan.ca.
Vous recherchez confort et tranquillité? Insonorisation supérieure, piscine, terrasse au toit, salle d'entraînement et vue imprenable sur le fleuve. Voilà ce que vous offre le Bourg de Coulonges à Sillery. Un immeuble unique, chaleureux et sécurisé. Trouvez le logement parfait pour vous au logibourg.com.
Chez Céramix, obtenez 40% de rabais sur les planchers chauffants à l'achat de céramique. Céramix a plus de 2000 modèles de porcelaine. Laissez-vous guider par nos experts et découvrez nos rabais Expo Habitat. Mise de côté et entreposage gratuit. Céramix 430 Saint-Sacrement, céramix.ca.
Votre retraite vous préoccupe?
Vous vivez des changements de vie importants tels un nouvel emploi, une séparation ou le décès d'un proche? Vous vous demandez si vous utilisez toutes les façons de vous enrichir, de sauver de l'impôt, de protéger vos avoirs et de maximiser vos rendements? Je suis Marc-Antoine Reed, planificateur financier de Rage Against le matin à Boulevard. Enrichissez-vous en toute tranquillité et bénéficiez d'une deuxième opinion et d'un plan financier vivant en prenant contact avec nous dès aujourd'hui.
Équipe Marc-Antoine Reed, IG Gestion de patrimoine, Service financier Group Investors Inc., cabinet de services financiers, 1-833, ton plan.
Transformez votre journée en jour de casino. Jouez au jackpot, jeu de table en direct et plus. Découvrez les machines à sous les plus populaires comme Book of Dead et Immortal Romance ou jouez à la roulette, au blackjack et bien d'autres à Casino Days. Ouvert à tous les joueurs, 18 ans et plus, ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
On le sait que vous vous ennuyez déjà de nos belles voix. Ce sera pas long. On vient.
Il y a l'économie de marché, l'économie planifiée, l'économie circulaire, les économies d'échelle, les économies de bout de chandelle. Mais chez Énergir, nous croyons d'abord à l'économie d'énergie. C'est pourquoi, depuis près de 25 ans, on aide nos clients à réduire leur consommation en les accompagnant dans des projets d'efficacité énergétique. Pourquoi est-ce qu'on tient à vendre moins de ce qu'on offre? Parce que l'économie d'énergie, ça profite à tout le monde. Énergir. Pensez l'énergie autrement.
En changeant pour Desjardins Assurance, vous pourriez économiser jusqu'à 550 $ en combinant vos assurances auto et habitation.
Ah oui?
Et ils ont de l'expérience. Plus de 80 ans.
Ça change quoi?
Bien, imaginez si votre mari jouait au quilles tous les jours depuis 80 ans.
Ah,